Talfacho, T-A-L-F-A-C-H-O.
Bonjour et bienvenue dans Easy Reader. Je suis Bruno, alias Calix, et je serai votre hôte. Easy Reader, c'est quoi ? C'est un moment de lecture d'une demi-heure, trois quarts d'heure, des premiers chapitres de romans fantastiques, d'horreur ou de tout autre style, suivant mon humeur. Là où ça devient intéressant, c'est que je ne donnerai ni le titre, ni le nom de l'auteur. Cela sera à découvrir dans l'épisode suivant, avec un petit pitch et un avis et une nouvelle lecture. Mais avant de commencer, je voudrais juste faire quelques remerciements aux personnes qui m'ont soutenu et permis de réaliser ce projet. À mon épouse Émilie et ma fille Zoé qui sont mes deux phares dans le brouillard et sans qui je ne serais rien. À l'équipe de Talfo qui m'a permis de me lancer dans l'univers du podcast. Et la marraine et le parrain de ce projet, Dollywood et Alt 236, deux personnes qui m'ont tant apporté au niveau culturel. Merci Dolly pour ton coaching et merci Alt pour la permission d'utiliser tes musiques. Les amis, ce serait un plaisir de vous accueillir pour un moment de lecture. Après ce petit moment d'émotion, rentrons dans le vif du sujet, ouvrons l'ouvrage, baissons la lumière et commençons la lecture. Je fais encore des cauchemars. D'ailleurs, j'en fais si souvent que je devrais y être habitué depuis le temps. Ce n'est pas le cas. Personne ne s'habitue vraiment aux cauchemars. À une époque, j'ai essayé tous les médocs imaginables, tout ce qui pouvait m'aider à maîtriser la peur. Excédrine, mélatonine, L-tryptophan, Valium, Vicodine, tous les membres de la famille des barbituriques ou presque. En quantité assez impressionnante, souvent accompagnée de verres de bourbon, de quelques bouffées de bong qui vous décapent les poumons, et même parfois des vapeurs artificieuses de la cocaïne. Tout cela n'a servi à rien. Je pense pouvoir affirmer avec certitude qu'il n'existe pas encore de labo assez sophistiqué pour faire la synthèse de genre de produits chimiques dont j'ai besoin. Un prix Nobel à celui qui inventera ce truc. Je suis très fatigué. Le sommeil me talonne depuis je ne sais plus combien de temps. Inévitable, je suppose. Ce qui est fâcheux, c'est que la perspective de dormir ne m'emballe pas. Je dis « fâcheux » parce qu'il fut un temps où j'aimais vraiment dormir. En fait, je dormais tout le temps. C'était avant que mon copain Lude me réveille à 3h du matin pour me demander de passer chez lui. Qui sait si je n'avais pas entendu la sonnerie du téléphone. Tout serait peut-être différent aujourd'hui. J'y pense souvent. À vrai dire, Lude m'avait parlé du vieux un mois avant cette nuit décisive. Est-ce bien le mot ? Incisif conviendrait mieux, non ? J'étais passé par les affres de la recherche d'appartement suite à un petit problème avec un proprio qui s'était réveillé un matin en se prenant pour Charles de Gaulle. Sa déclaration m'avait tellement abasourdi que, avant même d'y réfléchir à deux fois, je lui avais répondu qu'à mon humble avis, il n'avait absolument rien d'un aéroport, même si la perspective d'un 757 en train d'atterrir sur lui n'avait rien de désagréable. Il m'expulsa séance tenante. J'aurais pu protester, mais l'endroit était une maison de fous, et j'étais content de partir. Une semaine plus tard, le grand Charlie mettait le feu à la baraque. Il déclara qu'un 757 s'était écrasé dessus. Au cours des semaines qui suivirent, alors que je zonnais entre Santa Monica et Silver Lake dans l'attente d'un appartement, Lude me parla du vieux qui habitait dans son immeuble. Il vivait dans un rez-de-chaussée qui donnait sur une cour intérieure envahie par la végétation. Apparemment, le type en question avait dit à Lude qu'il allait bientôt mourir. Je n'y ai pas prêté trop d'importance, même si ce n'est pas exactement le genre de truc qu'on oublie non plus. Sur le moment, j'ai simplement pensé que Lude me faisait marcher. Il aimait bien en rajouter. J'ai fini par me dénicher un studio à Hollywood et je me suis retrouvé un train-train abrutissant comme employé dans un salon de tatouage. C'était fin 96. Les nuits étaient froides. J'essayais d'oublier une femme du nom de Clara English qui m'avait annoncé qu'elle recherchait un type situé au sommet de la chaîne alimentaire. Du coup, je manifestais mon infatigable dévotion à sa mémoire en contractant un grave béguin pour une stripteaseuse qui s'était fait tatouer le mot pampan juste en dessous du string, à tout juste 2 cm de sa chatte rasée, ou, ainsi qu'elle l'aimait l'appeler, de l'endroit le plus sympa du monde. Bref, lui et moi, nous avons passé les dernières heures de l'année seuls, en quête de nouveaux bars, de nouveaux visages, nous aventurant imprudemment dans les canyons urbains au volant de sa voiture, nous efforçant de clouer le bec à l'immense firmament nocturne à coups de bobard. On n'y est pas arrivé, à lui clouer le bec, je veux dire. Puis, le vieux est mort. D'après ce que je sais aujourd'hui, c'était un Américain. Même si, comme je devais le découvrir plus tard, les personnes qui travaillaient pour lui percevaient son accent, sans pour autant réussir à savoir d'où il venait. Il se faisait appeler Zampano. C'était le nom qu'il avait inscrit sur son bail et sur plusieurs autres bouts de papier que je trouvais. Je n'ai découvert aucune pièce d'identité, que ce soit un passeport, un permis de conduire ou tout autre document officiel pouvant laisser supposer que, oui, il était bel et bien celui qu'il disait être. Allez savoir d'où venait vraiment son nom. Peut-être était-il authentique, peut-être inventé, peut-être était-ce un nom d'emprunt, un nom de plume, ou mon explication préférée, un nom de guerre. Comme me l'expliqua Lude, Zampano vivait dans son immeuble depuis de nombreuses années. Et il avait beau en général fuir la compagnie, il ne manquait pas de faire chaque matin et chaque soir un petit tour dans la cour. Un endroit à l'abandon avec des herbes qui montaient jusqu'aux genoux, peuplé à l'époque de plus de 80 chats errants. Apparemment, ces chats aimaient bien le vieux et même si ce dernier ne leur témoignait aucun encouragement, ils se frottaient en permanence contre ses jambes avant de se carapater ventre à terre à l'autre bout du terrain vague. Bref, Lud avait passé une bonne partie de la nuit avec une femme rencontrée dans son salon de coiffure. Il était un peu plus de 7h du matin quand il arriva en titubant dans la cour, et malgré une gueule de bois carabinée, il remarqua immédiatement ce qui clochait. Lud rentrait souvent tôt chez lui et trouvait toujours le vieux en train de faire le tour des hautes herbes, ou de se reposer sur un banc délavé par le soleil avant d'entamer une nouvelle ronde. Une mère célibataire qui se levait tous les matins à 6h remarqua également l'absence de Zampano. Elle partit à son boulot, Lud alla se coucher. Mais quand la nuit tomba et que leur vieux voisin ne se manifesta toujours pas, Lud et la mère célibataire allèrent prévenir Flaz, le gérant de l'immeuble. Flaz est moitié hispano, moitié samoan. Une espèce de géant, 1m92, 125 kg, quasiment pas une once de graisse. Que des vandales, des camés, autres zozos s'approchent seulement de l'immeuble, et Flaz se jettera sur eux comme un pitbull dressé par des dealers de crack. Et n'allez pas croire qu'il reculera devant la taille et la force. Si les intrus sont armés, il leur montrera sa propre collection d'armes à feu et n'hésitera pas à leur tirer dessus plus rapide que Billy le Kid. Mais à peine Lud eut-il fait part de ses inquiétudes concernant le vieux, que Pitbull et Billy le Kid disparurent comme par enchantement. Soudain, Flaz ne retrouvait plus les clés. Il annonça d'une voix étranglée qu'il allait appeler le propriétaire de l'immeuble. Au bout de 20 minutes, Lud en avait tellement ras-le-bol de l'entendre bafouiller qu'il proposa de prendre lui-même les choses en main. Flaz retrouva aussitôt les clés et, avec un grand sourire, les fourra dans la main tendue de Lud. Flaz m'apprit plus tard qu'il n'avait encore jamais vu de cadavre et qu'il était clair qu'il y aurait un cadavre, et ça, ce n'était pas du tout pour plaire à Flaz. On savait ce qu'on allait trouver, dit-il. On savait que ce type était mort. Les policiers trouvèrent Zampano exactement dans la position où l'avait trouvé Lud, à plat ventre par terre. Les ambulanciers annoncèrent qu'il n'y avait rien d'inhabituel. C'était la vie, 80 balais, des poussières, puis l'inévitable crack-boom. Le système tombe en panne, les lumières s'éteignent, et voilà, c'est fini. Un autre cadavre est allé au milieu de toutes sortes d'affaires qui n'ont pas grand sens, hormis pour celui qui ne peut plus les emporter avec lui. Mais c'était toujours mieux que la prostituée qu'ils avaient découvert un peu plus tôt dans la soirée. Elle s'était fait mettre en pièces dans une chambre d'hôtel, et quelqu'un s'était servi de certaines parties de son corps pour repeindre les murs et le plafond en rouge. À côté de ça, le spectacle du vieux semblait presque agréable. Tout ça prit un certain temps, avec les flics qui allaient et venaient, les toubibs qui s'occupaient du corps et s'assuraient pour commencer que le vieux était vraiment mort, avec les voisins et finalement même Flaz qui vinrent jeter un œil pour savoir ce qui se passait ou simplement se repaître d'un spectacle qui, un jour peut-être, les concernerait de près. Quand ce fut enfin fini, il était très tard, Lud se retrouva seul dans l'appartement, le cadavre aurait été embarqué, les officiels étaient partis, idem pour Flaz, les voisins et autres fouineurs. Plus un chat. 80 balais et tout seul dans ce taudis, m'avait dit Lud plus tard. J'ai pas envie de finir comme ça. Pas de femme, pas d'enfant, personne, que dalle. Pas même un putain d'ami. J'avais dû me marrer parce que Lud s'était énervé contre moi. Eh os, va pas t'imaginer que de lâcher ta purée à tirer l'arigot te garantit quoi que ce soit. Regarde-toi, tu travailles dans un salon de tatouage, t'es amoureux d'une stripteaseuse qui s'appelle Pompon. Pour ça, oui, il avait raison sur un point. Zampano n'avait pas de famille, pas d'amis, et presque pas un sou vaillant. Le lendemain, le propriétaire afficha un avis de cession et une semaine plus tard, après avoir déclaré que les effets retrouvés dans l'appartement se montaient à moins de $300, il téléphona à une entreprise caritative pour qu'elle vienne tout embarquer. C'était le soir où Lude fit son horrible découverte, juste avant que les types de la Croix-Rouge ou je ne sais qui déboulent avec leur gore et leur diable. Quand le téléphone a sonné, je dormais profondément. Ça aurait été n'importe qui d'autre, je lui aurais raccroché au nez, mais Lude est un suffisamment bon copain pour que je m'extirpe du lit à 3h du matin et me rende dans Franklin. Il y attendait devant la grille avec une lueur malicieuse dans les yeux. J'aurais dû rebrousser chemin sur le champ. J'aurais dû me douter qu'il se tramait quelque chose ou du moins sentir les mauvaises vibrations. Il y en avait partout dans l'air, dans le regard de Lude, dans tout ça. Et merde, fallait-il que je sois sacrément stupide pour n'avoir remarqué aucun de ces signaux? La façon dont les clés de Lude cliquetaient comme des carillons d'osselet quand il ouvrit la grille principale. Les gonds qui grincèrent soudain comme s'ils pénétraient dans une crypte rongée par la mousse et non dans un immeuble habité. Ou la façon dont nous nous avancions à pas feutrés dans le couloir humide et froid. Envahis par les ombres, avec au-dessus de nous les lampes recouvertes de paillettes de lumière qui, je le jure à présent, devaient être l'œuvre d'araignées grises et primitives. Ou, et c'est sans doute ça le plus important, la façon qu'avait Lude de me raconter à voix basse des trucs dont je n'avais rien à battre à l'époque. Mais aujourd'hui, eh bien aujourd'hui mes nuits seraient nettement plus courtes si je n'étais pas forcé de me les rappeler. Vous est-il déjà arrivé de vous revoir en train de faire quelque chose que vous avez déjà fait? Peu importe le nombre de fois où vous vous repassez la scène, à chaque fois vous avez envie de hurler stop, de tout recommencer différemment, de redéfinir le présent. C'est ce que je ressens maintenant en me voyant entraîné bêtement par l'inertie, par ma propre curiosité, allez savoir. Il devait y avoir autre chose, mais quoi exactement? Je n'en ai aucune idée. Peut-être rien, c'est tout. Une belle combinaison absurde de mots. Rien, c'est tout. Mais qui me plaît quand même. De toute façon, ça n'a plus d'importance. Ce qui motivait alors mes moindres actes fut en tout cas assez fort cette nuit-là pour me faire passer devant tous ces dormeurs tenus à distance des vivants, cloîtrés derrière leurs portes robustes, et me conduire au bout du couloir face à la dernière porte sur la gauche, une porte tout ce qu'il y avait de plus ordinaire d'ailleurs, mais une porte menant néanmoins au royaume des morts. Lude, bien sûr, n'avait pas prêté attention aux détails troublants de notre petite expédition au fond du bâtiment. Il m'avait raconté dans le moindre détail ce qui s'était passé après la mort du vieux. « Deux choses, os !» marmonna Lude alors que la grille s'ouvrait en coulissant. « Donc ça change grand-chose ?» Et autant que je pus m'en rendre compte, il avait raison, elles n'ont guère de rapport avec ce qui suit. Je les mentionne uniquement parce qu'elles font partie de l'histoire qui a trait à la mort de Zampano. Espérons que vous réussirez à comprendre quoi que ce soit à ce que je vais dépeindre, mais n'arrive pas encore à élucider. Le premier truc bizarre, me dit Lude, en s'engageant sur une petite volée de marche, c'est les chats. Apparemment, dans les mois qui précédèrent le décès du vieux, les chats avaient commencé à disparaître. À sa mort, il n'en restait plus un seul. J'en ai vu un avec la tête arrachée et un autre avec les tripes répandues partout sur le trottoir, mais pour la plupart, ils ont juste disparu. Le second truc bizarre, tu le verras par toi-même, dit Lude en baissant davantage la voix, alors que nous passions devant une pièce qui semblait occupée par une étrange confrérie de musiciens, hyper concentrés, munis de casques et se passant un joint. Juste à côté du corps, reprit Lude, j'ai trouvé des entailles dans le plancher, longues d'au moins 15 ou 20 cm, vraiment bizarre, mais comme le vieux ne présentait aucun signe de traumatisme physique, les flics n'ont pas tiqué. Il s'interrompit, nous étions parvenus devant la porte. Je frémis à présent. Sur le moment, je pense que j'étais ailleurs, plus vraisemblablement en train de rêvasser à Pompan. Ça va sans doute vous paraître dingue. Je m'en fiche, mais un soir, j'ai même loué la cassette de Bambi et ça m'a fait mander. Pompan, c'était quelque chose. Et pour sûr que Clara English lui arrivait pas à la cheville. Peut-être que sur le moment, je me demandais même de quoi elles auraient l'air toutes les deux si jamais elles se crêpaient le chignon. Mais une chose est certaine. Quand j'entendais lui tourner le verrou et ouvrir la porte de Zampano, ses rêveries se sont dispersées. Ce qui m'a frappé en premier, c'est l'odeur. Ce n'était pas une odeur désagréable, elle était juste incroyablement forte. Elle n'était pas simple non plus, elle était extrêmement stratifiée, une accumulation de patines dont la source véritable s'était évaporée depuis longtemps. À l'époque, elle m'avait terrassé, omniprésente, écœurante, amère, pourrie, voire vicieuse. Aujourd'hui, je suis incapable de me rappeler cette odeur, seulement ma réaction en la sentant. Mais si je devais lui donner un nom, je pense que je l'appellerais le Roland de l'histoire humaine. Un mélange de sueur, d'urine, de merde, de sang, de chair et de sperme, mais aussi de joie, de peine, de jalousie, de rage, de vengeance, de peur, d'amour, d'espoir, et de pas mal d'autres choses encore. Tout ça paraît sûrement très ridicule, vu que mes talents olfactifs sont plutôt hors de propos ici. Mais ce qui compte, c'est que cette odeur était complexe pour une raison très précise. Toutes les fenêtres étaient clouées et calfatées. L'entrée principale et les portes donnant sur la cour étaient à l'épreuve des tempêtes. Même les aérations étaient recouvertes de rubans adhésifs. Cela dit, on n'avait pas poussé jusqu'à installer des barreaux fenêtres et des serrures multiples aux portes pour éliminer toute ventilation dans le petit appartement. Zampano n'avait pas peur du monde extérieur. Comme je l'ai déjà souligné, il se promenait dans la cour et apparemment n'hésitait pas à braver les transports en commun de Los Angeles pour se rendre de temps à autre à la plage. Un tracé que même moi, j'ai peur de faire. À mon avis, il a scellé son appartement afin de retenir au maximum les diverses émanations dégagées par ses affaires et par lui-même. Ces dernières se composaient du bazar habituel. Mobilier dépenaillé, bougies inutilisées, vieilles chaussures, d'aspect particulièrement triste et abîmé. Bol en céramique, beaucoup en verre, petites boîtes en bois pleines de rivets, d'élastiques, de coquillages, d'allumettes, de cosses de cacahuètes. Plus un millier de boutons de couleurs et de formes toutes différentes. Une vieille chope à bière ne contenant rien d'autre que des flacons de parfum vide. Comme je m'en aperçus, le réfrigérateur n'était pas vide, mais ne contenait pas non plus la moindre nourriture. Zampano l'avait bourré d'étranges livres pâles. Bien sûr, tout cela a disparu aujourd'hui, depuis longtemps, l'odeur aussi. Il ne me reste que quelques instantanés épars. Un zippo cabossé avec la mention de brevet imprimée sur le fond, le pas de vis en cuivre semblable à un minuscule escalier en spirale qui s'enfonce au creux d'une douille électrique vide, et curieusement, ce dont je me souviens le plus, un très vieux tube de pommade pour les lèvres, ambré comme de la résine, tout dur et craquelé. Ce qui n'est pas encore tout à fait exact, mais n'allez pas croire à tort que je n'essaye pas d'être exact. Il y avait, je l'admets, d'autres choses dont je me souviens dans cet endroit, mais elles semblent désormais sans importance. À mes yeux, ce n'était qu'un bric-à-brac. Le temps n'avait accompli ici aucune alchimie économique, ce qui importait peu vu que Lude ne m'avait pas fait venir pour passer au crible ces éléments exhumés, pour user de ces grands mots que je finirais par apprendre au cours des mois suivants de la vie de Zampano. En effet, exactement comme me les avait décrites mon ami, sur le sol, quasiment au centre, se trouvaient les quatre entailles toutes plus longues que la main, des bouts de bois déchiquetés par quelque chose que ni lui ni moi ne voulions imaginer. Mais ce n'était pas ça non plus que Lude voulait que je voie. Il était en train de me montrer autre chose qui ne m'impressionna guère la première fois que je jetais un œil à sa forme implacable. À dire vrai, j'avais encore du mal à détacher mon regard du plancher lacéré. Je tendis même la main pour toucher les échardes qui saillaient. Que savais-je alors ? Que sais-je aujourd'hui ? Une partie au moins de l'horreur que j'emportais à 4h du matin se trouve désormais devant vous et vous attend, un peu comme elle m'attendait ce soir-là, mais sans ces quelques pages explicatives. Ainsi que je le découvris, il y en avait des pages et des pages. D'infinis enchevêtrements de mots signifiant parfois quelque chose, parfois rien du tout, se fracturant souvent pour bifurquer sans cesse vers d'autres morceaux que je découvris par la suite. De vieilles serviettes, les bords en lambeaux d'une enveloppe, et même une fois le dos à timbre-poste. Aucune place laissée vacante. Chaque fragment entièrement recouvert par le déferlement d'années et d'années de déclarations à l'encre. Des mots écrits à la main, tapés à la machine, des mots surchargés, barrés, corrigés, lisibles, illisibles, incompréhensibles, lucides, déchirés, maculés, recollés au scotch. Certains morceaux encore impeccables, d'autres effacés, brûlés ou pliés et repliés tant de fois que les plis avaient fini par effacer des passages entiers de Dieu sait quoi. Sens, vérité, supercherie. Un héritage prophétique dément ou rien de tel, finissant par achever, désigner, décrire, recréer. Soyez vous-même les termes, je n'en ai plus. Ou alors des tonnes, mais à quoi bon? Et tout ça pour dire quoi? Lude n'avait pas besoin d'une réponse, mais il se doutait que j'en voudrais une. Peut-être était-ce pour ça qu'on était amis, ou peut-être que je me trompe. Peut-être avait-il bel et bien besoin d'une réponse, et il savait que ce n'était pas lui qui pouvait la trouver. Peut-être est-ce la vraie raison pour laquelle on était amis, mais là aussi ce n'est probablement pas vrai. Une chose est sûre, même sans y toucher, nous avons commencé tous deux à ressentir sa pesanteur. À pressentir une chose horrible par ses proportions, son silence, son immobilité. Même si l'on sentait que cela avait été relégué presque négligemment dans un coin de la pièce. Je pense à présent que si quelqu'un nous avait dit « prenez garde », nous aurions suivi son conseil. Je sais qu'il y a eu un moment où j'ai su avec certitude que cette noirceur était capable de tout, même de jaillir et de déchiqueter le plancher, puis d'assassiner Zampano, de nous assassiner, voire de vous assassiner. Mais ce moment passa. L'étonnement et la façon dont l'inimaginable est parfois suggéré par l'inanimé s'estompèrent soudain. La chose redevint une chose, et je la rapportai chez moi. À l'époque, oui, ça remonte à loin à présent, vous auriez pu me trouver en train de siffler quelques whisky à la poubelle, de me détruire l'oreille interne au bar de luxe, ou de Didéo Jones avec une rouquine plantureuse rencontrée à la maison du blues, notre conversation se prolongeant furieusement de clubs que nous connaissions bien en clubs que nous avions envie de mieux connaître. Je ne me prenais franchement pas la tête avec les écrits du vieux Z. Tous ces signes dont je viens juste de vous parler ont vite disparu au cours des jours qui ont suivi, à moins qu'ils n'aient jamais existé, sauf rétrospectivement. Au début, seule la curiosité m'a poussé à aller d'une phrase à l'autre. Souvent, quelques jours s'écoulaient avant que je m'empare d'un autre bout de papier déchiré, peut-être même une semaine. Mais j'y revenais toujours, pour 10 minutes, voire 20, survolant les scènes, les noms, de petites connexions, des motifs mineurs commençant à se former dans ces rares tranches de temps. Je ne lisais jamais plus d'une heure d'affilée. Bien sûr, chat échaudé craint l'eau froide, et même si le soleil est capable de lui redonner du poil de la bête, restait ce petit problème du type à la radio qui traitait en boucle une info secondaire. Mais je m'en fichais. Je me contentais d'éteindre la radio. Et puis un soir, j'ai jeté un coup d'œil à ma pendule. Je me suis aperçu qu'il s'était écoulé 7 heures. Lud avait appelé, mais je n'avais pas prêté attention à la sonnerie du téléphone. J'ai été plus qu'un peu surpris en découvrant son message sur mon répondeur. Ce n'est pas la dernière fois que j'ai perdu le sens du temps. En fait, ça a commencé à se produire de plus en plus souvent, des douzaines d'heures qui passaient comme ça, perdues, au fil d'innombrables phrases dangereuses. Lentement mais sûrement, j'ai perdu la boussole. Me suis de plus en plus détaché du monde, quelque chose de triste et de hideux contractant les commissures de ma bouche, affleurant dans mes yeux. J'ai cessé de sortir le soir, rien ne pouvait me distraire, j'avais le sentiment de plus rien contrôler. Quelque chose de terrifiant était sur le point de se produire, et finalement il s'est produit quelque chose de terrifiant. Personne ne pouvait plus me joindre, ni Pompon, ni même Lud. J'ai condamné mes fenêtres, balancé les portes du placard et de la salle de bain, renforcé tout pour résister aux tempêtes, et des serrures, oh oui, j'ai acheté des tas de serrures, des chaînes aussi et une douzaine de mètres à ruban, les clouant en ligne droite sur les murs et au plafond. Ils ressemblaient de façon inquiétante à des crucifix de métal oubliés, ou vus sous un autre angle, aux membres fragiles de quelques vaisseaux étrangers. Mais à la différence de Zampano, ce n'était pas à cause de l'odeur, c'était lié à l'espace. Je désirais un espace clos, inviolable et surtout immuable. Au moins, les maîtres à ruban auraient dû être d'un quelconque secours. Ils n'ont servi à rien. Rien n'a servi à rien. Je viens de me préparer du thé sur la plaque chauffante. Mon estomac ne supporte plus rien. Je peux à peine garder cette mixture au lait et au miel, mais j'ai besoin de sa chaleur. Je suis dans un hôtel à présent. C'en est fini de mon studio. C'en est fini de pas mal de choses ces temps-ci. Je n'ai même pas encore fait disparaître le sang. Il ne s'agit pas que du mien. Encore des traces craquelées sur les doigts, des marques sur ma chemise. Je ne cesse de me demander, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'auriez-vous fait? Je me suis précipité sur les armes, je les ai chargées, puis je me suis demandé quel usage j'allais en faire. Après tout, les armes servent à ça, tirer sur quelqu'un, mais qui ou quoi, je n'en avais pas la moindre idée. Il y avait des voitures et des gens sous la fenêtre de ma chambre d'hôtel, des gens que je ne connaissais pas, des voitures que je n'avais encore jamais vues. J'aurais pu leur tirer dessus, j'aurais pu tous les descendre. Au lieu de ça, je suis allé vomir dans le placard. Bien sûr, je ne peux m'en prendre qu'à ma propre et incommensurable stupidité quant à ma présence ici. Le vieux avait laissé des tas d'indices et d'avertissements. J'ai eu la bêtise de les ignorer. Ou est-ce l'inverse? Les ai-je appréciés secrètement? J'aurais dû au moins me douter dans quel pétrin je me fourrais quand j'ai lu cette note écrite juste la veille de sa mort. 5 janvier 1997. Quiconque trouvera et publiera ce travail sera habilité à en percevoir tous les bénéfices. Je demande seulement que mon nom figure en bonne place. Peut-être même vous enrichirez-vous, si toutefois vous vous apercevez que les lecteurs se montrent peu compréhensifs et décidez alors de renoncer à cette entreprise. Je vous engage à boire du vin en grande quantité, à danser dans les draps de votre nuit de noces, car que vous le sachiez ou non, voilà bel et bien riche. On prétend que la vérité résiste à l'épreuve du temps. Je ne vois pas de meilleure consolation que celle de savoir que ce document échouera dans cette épreuve. Après tout, comme je l'ai découvert rapidement, tout le projet de Zampano tourne autour d'un film qui n'existe même pas. Vous pouvez chercher, je l'ai fait. Mais peu importe le nombre d'heures que vous y passerez, vous ne verrez jamais le Navidson Record dans aucun cinéma ou vidéoclub. Qui plus est, la plupart des propos attribués aux personnalités citées ont été inventés. J'ai essayé de les contacter, toutes. Celles qui ont pris le temps de me répondre m'ont dit qu'elles n'avaient jamais entendu parler de Will Navidson, et encore moins de Zampano. Quant aux ouvrages cités en notes de bas de page, une bonne partie est fictive. Par exemple, Shots in the Dark de Gavin Young n'existe pas, pas plus que The Works of Hubert of Bancroft, volume 28. D'un autre côté, quasiment n'importe quel crétin peut faire un saut en bibliothèque et trouver Ancient Lore in Medieval Latin Glossaries de W.M. Lindsay et H.J. Thompson. Il y a bel et bien une rébellion lors de la mission Skylab de 73, mais la belle niçoise et le beau chien est une invention, tout comme je suppose l'histoire sanglante de Quesada et Molino. Ajoutez à cela mes propres erreurs, et il ne fait aucun doute que je suis responsable d'un grand nombre, ainsi que celles qu'a commises Zampano et que je n'ai pas pu relever ou corriger, et vous verrez pourquoi il y a soudain pas mal de choses là-dedans à ne pas prendre au sérieux. Rétrospectivement, je m'aperçois également qu'il existe sûrement de nombreuses personnes qui auraient été mieux qualifiées que moi pour s'occuper de ce travail. Des étudiants diplômés de grandes écoles et des esprits supérieurs à n'importe quelle bibliothèque d'Alexandrie ou réseau global. Le problème, c'est que ces gens étaient toujours dans leurs universités ou leurs toiles, mais en aucun cas près de Whitley quand mourut un vieil homme sans amis ni famille. Zampano, j'ai fini par le comprendre, était un homme très drôle. Mais son humour est de ce genre désabusé, sec que ce murmure entre les soldats. Toutes ses blagues à usage privé, ses rires se résumant à un léger tic au coin de la bouche, des blagues échangées alors qu'ils attendent ensemble dans leur avant-poste et s'aperçoivent progressivement que les renforts n'arriveront pas à temps et que, une fois la nuit tombée, peu importe ce qu'ils auront fait ou tenté de dire, la tuerie se déchaînera sur eux, une aube charognarde réservée aux vautours. L'ironie, n'est-ce pas ? C'est que le fait que le documentaire au cœur de ce livre soit une fiction ne change rien. Zampano savait d'entrée de jeu qu'ici, ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, importe peu, les conséquences sont les mêmes. Je peux soudain imaginer la voix frêle que je n'ai jamais entendue, des lèvres qui se plissent à peine en un sourire, des yeux fixés sur les ténèbres. Ironie ? L'ironie ne saurait être davantage que notre propre ligne Maginot, un tracé pour l'essentiel purement arbitraire. Il n'est donc pas étonnant que, quand vint le moment de saboter sa propre œuvre, le vieux se soit révélé merveilleusement compétent. Fausse citation ou source inventée, qu'importe. Tout semble pâle en comparaison de la farce suprême. Zampano parle constamment de voir, ce que nous voyons, comment nous voyons, et ce qu'en revanche nous ne pouvons pas voir. Sans cesse, sous une forme ou une autre, il parle de lumière, d'espace, de forme, de ligne, de couleur, de mise au point, de tons, de contraste, de mouvement, de rythme, de perspective et de composition. Rien de surprenant vu que l'étude de Zampano traite d'un documentaire intitulé The Navidson Record, tourné par un photoreporter ayant décroché le Pulitzer et qui a dû fixer le sujet le plus difficile qui soit, l'image des ténèbres elle-même. Étrange à tout le moins. Au début, je pensais que Zampano n'était qu'un vieux trip sinistre, le genre à faire passer Itchy et Scratchy pour Calvin et Hobbes. Mais son appartement ne ressemblait en rien, même de loin, à ce qu'a pu imaginer Joel Peter Witkin, ou à ce qu'on nous montre d'ordinaire aux informations. D'accord, son appartement était éclectique, mais nullement grotesque, et même plutôt assez ordinaire, jusqu'à ce que, bien sûr, vous l'examiniez plus attentivement et compreniez. Mais pourquoi toutes ces bougies sont-elles intactes ? Pourquoi n'y a-t-il aucune horloge, ni sur les murs, ni sur le coin d'un buffet? Et qu'est-ce que c'est que ces étranges livres pâles? Et pourquoi n'y a-t-il pas une seule ampoule dans tout l'appartement? Bon sang, pas même dans le réfrigérateur. C'était là, bien sûr, le geste suprement ironique de Zampano. Tout ce discours sur la lumière, le cinéma, la photographie, alors qu'il n'avait rien vu depuis le milieu des années 50. Il était aveugle comme une taupe. Quasiment la moitié des livres qu'il possédait étaient en braille. L'UDFLAS ont confirmé qu'au cours des ans, le vieux avait reçu chez lui de nombreuses lectrices pendant la journée. Certaines venaient de centres sociaux, de l'Institut Braille, ou étaient juste des bénévoles de l'USC, de l'UCLA ou du Santa Monica College. Aucune de celles à qui j'ai parlé, toutefois, n'a prétendu bien le connaître, même si elles étaient plus d'une à vouloir me donner leur avis. Une étudiante pensait qu'il était bon pour l'asile. Une autre, une actrice qui avait passé tout un été à lui faire la lecture, trouvait que Zampano était un romantique. Elle était venue un matin et l'avait découvert dans un état épouvantable. Au début, j'ai supposé qu'il était ivre. Mais le vieux ne buvait jamais, pas même une gorgée de vin. Ne fumait pas non plus d'ailleurs. Il menait vraiment une existence très austère. Non, il n'était pas ivre, seulement très déprimé. Il s'est mis à pleurer et il m'a demandé de partir. Je lui ai préparé du thé. Les larmes ne me font pas peur. Plus tard, il m'a dit qu'il avait un problème au cœur. Juste de vieilles douleurs au cœur, a-t-il dit. Je ne sais pas qui c'était, mais elle devait être vraiment spéciale. Il ne m'a jamais dit son nom. J'ai fini par apprendre que Zampano mentionnait de temps à autre sept noms. Béatrice, Gabrielle, Anne-Marie, Dominique, Eliane, Isabelle et Claudine. Apparemment, il n'en parlait que quand il était triste, et pour une raison ou une autre, la proie soudaine d'un passé sombre et embrouillé. Sept maîtresses, voilà au moins qui est plus réaliste qu'une unique et mythique Hélène. Mais à 80 ans passés, Zampano recherchait la compagnie du sexe opposé. Ce n'est en rien une coïncidence si toutes les personnes qui lui faisaient la lecture étaient des femmes. Comme il le reconnaissait ouvertement, il n'y a pas de plus grand réconfort dans ma vie que les intonations apaisantes nichées dans la parole féminine. Hormis peut-être la sienne à lui. Zampano était par essence, pour utiliser un mot savant, un graphomane. Il a écrit jusqu'à sa mort, et même s'il a été à plusieurs reprises près d'y arriver, il n'a jamais rien achevé. En particulier le travail qu'il décrivait sans complexe comme son chef-d'œuvre ou sa chérie. La veille même du jour où il n'apparut pas dans la misérable courette, il dictait de longs passages discursifs, corrigeant des pages écrites auparavant et restructurant un chapitre entier. Son esprit ne cessait d'explorer de nouveaux territoires. La femme qui l'a vu pour la dernière fois a déclaré « Ce qu'il ne pouvait pas tout à fait achever de cerner l'empêchait à jamais de s'arrêter. La mort y a finalement veillé. » Avec un peu de chance, vous rejetterez ce travail et réagirez ainsi que l'avait espéré Zampano. Vous le qualifierez d'inutilement compliqué, de vainement obtus, de bavard à votre guise, de ridicule, et vous croirez tout ce que vous avez dit, puis vous le mettrez dans un coin, même si ce seul mot de coin me fait frissonner, car mettons jamais quoi que ce soit dans un coin. Et vous continuerez de manger, de boire, de vous amuser, et surtout vous dormirez paisiblement. Cela dit, il y a de fortes chances pour que ça ne se passe pas comme ça. Je suis certain d'au moins une chose, ça ne se produit pas immédiatement. Vous en aurez fini avec tout ça et les choses en resteront là, jusqu'au jour où, ce peut être dans un mois, dans un an, voire dans plusieurs années, la chose se produira. Vous vous sentirez mal ou perturbé ou très amoureux ou tranquillement hésitant ou même satisfait pour la première fois de votre vie, peu importe. Sans prévenir, sans que vous puissiez remonter à une cause précise, vous apercevrez soudain que les choses ne sont pas telles que vous pensiez qu'elles étaient. Pour une raison ou une autre, vous ne serez plus la personne que vous aviez cru être auparavant. Vous percevrez de lentes et subtiles modifications tout autour de vous, en particulier d'importants changements en vous. Pire, vous vous apercevrez que les choses ont toujours changé. Dans une espèce de miroitement, de vaste miroitement, mais sombre comme une pièce. Et vous ne comprendrez pas pourquoi ni comment. Vous aurez oublié ce qui vous a mis la première fois la puce à l'oreille. Les bons vieux remparts, la télévision, les revues, les films ne vous protégeront plus. Vous tenterez peut-être de griffonner dans un journal, sur une serviette de table, voire dans les marges de ce livre. C'est alors que vous découvrirez que vous n'avez plus confiance dans ces murs mêmes que vous considériez comme allant de soi. Même les couloirs que vous avez empruntés une centaine de fois vous sembleront plus longs, beaucoup plus longs. Et les ombres, toutes les ombres sans exception, vous paraîtront soudain plus profondes, bien plus profondes. Vous essayerez alors peut-être, comme je l'ai fait, de trouver un ciel si rempli d'étoiles qu'il vous aveuglera à nouveau. Sauf qu'aucun ciel ne pourra plus désormais vous aveugler. Même avec toute cette magie iridescente là-haut, votre œil ne s'attardera plus sur la lumière, il ne parcourra plus les constellations. Vous ne vous préoccuperez plus que de l'obscurité, vous la fixerez pendant des heures, des jours, peut-être même des années, vous efforçant en vain de croire que vous êtes en quelque sorte indispensable. Une sentinelle engagée par l'univers, comme si le simple fait de regarder vous permettait de tout garder à distance. Les choses empireront au point que vous aurez peur de détourner le regard, peur de dormir. Puis, peu importe où vous serez, que ce soit dans un restaurant bondé, ou dans une rue déserte, ou même dans le confort de votre propre appartement, vous en viendrez à démolir toutes vos belles certitudes. Vous resterez dans un coin tandis qu'une chose immense et complexe surgira, déchirant, déchiquetant tous vos dénis soigneusement élaborés, qu'ils soient délibérés ou inconscients, et alors, pour le meilleur ou pour le pire, vous vous retournerez, incapable de résister, tout en essayant quand même de résister. Vous lutterez de toutes vos forces pour ne pas faire face à la chose que vous redoutez le plus, et qui est maintenant, qui sera, qui a toujours été là avant, la créature que vous êtes réellement, la créature que nous sommes tous, enfouie dans l'obscurité anonyme d'un nom. Et alors, les cauchemars commenceront. Johnny Herrand, 31 octobre 1998, Hollywood, Californie. Ainsi s'achève ce premier épisode d'Easy Reader. J'espère que vous avez passé un agréable moment et j'espère vous retrouver prochainement pour découvrir de quel ouvrage viennent ces pages et en découvrir un nouveau. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @pticalix, et je vous invite à retrouver les autres productions Talfo sur le site internet talfho.com. C'était Bruno, votre hôte, qui vous dit à bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires dans Easy Reader.